Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. La Coupe du monde de football et ses répercussions sur le débat politique national. Deux mois des élections législatives en Suède, le pays est en pleine crise sur la question de l'identité nationale. Cette fois en cause, une défaite le 23 juin face à l'Allemagne suite à un coup franc à la 95e minute. Le joueur suédois à l'origine de la faute, Jimmy Durma, d'origine syrienne, est aussitôt inondé d'injures racistes à tel point que la Fédération de football décide de porter plainte et que des milliers de Suédois se rassemblent en signe de soutien dans la capitale. Récit d'une Coupe du Monde très agitée à Stockholm avec Anne-Françoise Hiver.
Ce genre de dérapage raciste n'est pourtant pas nouveau, mais la violence des propos semble avoir pris tout le monde de court en Suède. La réaction a d'ailleurs été massive. Des centaines d'internautes affichent en signe de soutien la photo de Durma sur leur profil internet. La ministre des Affaires sociales, qui avait pourtant été insultée sur Twitter quand elle avait posté un selfie en maillot de l'équipe de Suède récidive. Elle se présente cette fois au Parlement avec le t-shirt de Durma pour répondre aux questions des députés. Le lendemain du match, l'équipe au grand complet accueille les journalistes sur la pelouse du stade de Gelenschik, visage fermé, bras croisés, tous derrière Durma. Le milieu de terrain, d'origine syrienne, né à Örebro, à l'ouest de Stockholm, prend la parole. Il évoque les menaces contre sa femme, ses enfants. « Je suis suédois et c'est avec fierté que je porte le maillot et le drapeau suédois », martèle-t-il. On dit l'équipe plus unie que jamais. Trois jours plus tard, le miracle se produit. 3-0 contre le Mexique. La Suède termine première de son groupe. L'Allemagne est éliminée. Les Suédois applaudissent, mais la stupeur de voir un joueur né en Suède portant les couleurs de son pays forcé de défendre son identité suédoise demeure. Autant d'ailleurs que le malaise causé par certains des commentaires de ses défenseurs qui rappellent ses exploits passés ou le fait qu'il ne soit pas musulman. Un éditorialiste du journal Svenska Dagbladet propose d'inventer un nouveau terme pour désigner les Suédois d'origine étrangère. Suédois ne suffirait plus. Une semaine plus tôt, Björn Söder, un des leaders de l'extrême droite, estimait que ni les Juifs ni les Samis, le peuple autochtone du nord de la Scandinavie, n'étaient Suédois. Il est depuis 4 ans vice-président du Parlement et son parti est donné à plus de 20% dans les sondages avant le scrutin du 9 septembre.
Et en attendant, les Suédois affrontent les Suisses demain, mardi, en 8e de finale. C'est une drôle de guerre qui se poursuit dans l'est de l'Ukraine. Les duels d'artillerie continuent avec des morts et le processus de paix est en panne. Un seul point positif dans ce tableau, les échanges de prisonniers entre Kiev et les républiques autoproclamées de Donetsk et Luhansk. En décembre dernier, le retour de 74 prisonniers avait été salué comme une victoire. Mais aujourd'hui, ceux qui ont retrouvé la liberté se sentent abandonnés par l'État. Un reportage à Kiev de Sébastien Gobert.
Edouard Netelaïev est calme, presque timide. Mais dans sa Lugansk natale, aujourd'hui l'un des fiefs des forces pro-russes et russes dans l'est de l'Ukraine, il était considéré comme un espion dangereux. Les autorités séparatistes l'ont arrêté en novembre 2016 et condamné à 14 ans de prison. Il explique son crime.
J'écrivais sur Facebook une sorte de blog du quotidien. Je parlais de ce que je voyais, de ce qui se passait dans la ville, mais d'une manière assez douce, sans insultes, sans me mêler de politique. Ça n'aura pas plu.
Edouard est aujourd'hui assis dans un café branché du centre de Kiev. Il a passé plus d'un an en prison avant de bénéficier d'un échange de prisonniers entre Kiev et les républiques séparatistes en décembre 2017. Il se rappelle ses conditions de détention.
À 6h du matin, on te réveille pour t'emmener aux toilettes, chacun son tour. Vers 7h, ils amenaient une assiette de bouillie. Le soir, une autre assiette de bouillie et une tasse d'eau chaude. Et direct après, on nous conduisait aux toilettes, un par un. C'était tout.
Des conditions drastiques, mêlées à une pression psychologique de la part des gardiens.
Dans la cellule, il n'y avait rien. Pas de fenêtre, on dormait sur des couches très sommaires, pas de ventilation, pas de chauffage. À tout moment, les gardes pouvaient venir, te frapper un peu, juste pour s'amuser.
Après sa condamnation, il est transféré vers une autre prison. Ses conditions de détention restent médiocres, mais il peut au moins lire et profiter de quelques minutes de promenade par jour. Un enfer qui a duré jusqu'à ce 27 décembre 2017. Ce jour-là a lieu un échange historique. 74 personnes sont rendues à l'Ukraine contre 233 transférées aux républiques séparatistes. Edouard Netelaïev et ses compagnons de fortune partent directement en avion pour Kiev, où ils sont accueillis par des familles, une foule de soutien, des journalistes et le président Petro Poroshenko.
Les amis, regardez comme Kiev vous accueille. Aujourd'hui est un grand jour. Ensemble, en combinant nos forces, nous avons permis que 74 Ukrainiens reviennent à la maison. Je veux féliciter les familles qui retrouvent leurs proches. Certains les ont attendus près de 3 ans. Nous l'avons fait ensemble et nous resterons soudés ensemble.
Mais une fois les caméras éteintes, la réalité est moins solidaire. Les anciens détenus passent des contrôles médicaux rapides et sont rendus à la vie civile. À eux de trouver appartement et travail et de se reconstruire un avenir. C'est dans une petite chambre dans la banlieue de Kiev qu'Edouard effectue des réparations pour une société informatique.
Là, je reçois l'équivalent de 300 dollars de salaire. Mon loyer coûte 200 dollars, faites le compte.
Edouard sait que l'État ukrainien est pauvre et dysfonctionnel. Il n'attend rien des pouvoirs publics. Enfin, presque rien.
Le jour de l'échange, le président a promis que chaque ancien prisonnier allait recevoir l'équivalent de 3200 euros. Ça, je l'attends toujours, mais je n'espère rien d'autre.
6 mois après l'échange, le versement de cette somme vient tout juste d'être décidé, le 26 juin. Elle n'est pas encore parvenue à Edouard, qui espère patiemment. Mais tous les anciens prisonniers n'ont pas cette chance. Maria Varfolomeya a passé 1 an et demi en prison à Lugansk. Quand elle a été libérée en mars 2016, personne ne lui a promis une quelconque compensation. Elle dort depuis sur le canapé d'amis à Kiev, en attendant de finir ses études de sociologie.
Non.
Malheureusement, notre État n'a pas une grande tradition d'aide sociale. Je n'ai jamais compté sur les pouvoirs publics pour m'aider dans cette nouvelle vie. Par contre, j'ai reçu beaucoup de soutien de bénévoles, beaucoup de gens ordinaires qui me sont venus en aide.
Pour autant, la jeune femme n'éprouve que de la gratitude pour les autorités. Au lieu de critiquer, elle appelle à l'unité pour obtenir la libération de tous les prisonniers de guerre et prisonniers politiques, qu'ils soient dans les territoires séparatistes pro-russes de Donetsk et Lugansk ou en Russie. De fait, il serait plus de 70 en Russie. Emprisonné depuis 2014 et condamné après un procès très politisé, le réalisateur ukrainien Oleg Sentsov est le symbole de ses détenus. Il a entamé une grève de la faim illimitée le 14 mai. Irina Irachenko, jointe par téléphone, est députée au Parlement ukrainien et négociatrice pour les échanges de prisonniers.
Nous avons fait des demandes répétées par le biais de différentes organisations humanitaires et politiques pour échanger 23 citoyens russes qui sont en prison ici en Ukraine contre des prisonniers politiques ukrainiens aujourd'hui en Russie. Mais nous n'avons pour l'instant reçu aucune réponse.
Les efforts des négociateurs pour la libération des prisonniers politiques contrastent avec le désengagement de l'État après leur retour au pays. Un symptôme de l'Ukraine moderne qui peine à assurer un filet de sécurité pour ses catégories les plus défavorisées ou même pour ses vétérans de guerre. Pour autant, Edouard Nedelaïev ne se plaint pas.
Je ne suis plus en prison. L'essentiel, c'est d'être libre.
Libre, mais exilé. Edouard Nedelaïev ne croit pas à la possibilité de jamais revenir à Lugansk. Sa femme est encore là-bas et pour la retrouver, il faut qu'il puisse redémarrer à Kiev une nouvelle vie.
Tu le dis pas, tu le dis pas, oh non non non. Tu le dis pas, tu le dis pas.
Le Parlement britannique n'est pas au-dessus de tout soupçon en cause de l'argent public qui servirait à obtenir le silence de plaignants dans les cas de harcèlement. Une pratique qui se présente élégamment sous le terme d'accord de confidentialité, qui n'est pas illégal mais hautement contestable. C'est le secrétaire personnel du président de la Chambre basse directement concerné qui a révélé l'affaire à Londres, Marie Billon.
2,7 millions d'euros ont été utilisés pour acheter le silence dans anciens employés de la Chambre des communes de 2013 à 2017. En tout, ce sont 53 accords de confidentialité qui ont été signés. C'est une procédure tout à fait légale, mais qui fait couler beaucoup d'encre au Royaume-Uni. D'abord parce qu'il s'agit d'argent public. Rien qu'en 2013, plus d'1 million d'euros a été dépensé pour bâillonner des ex-employés, comme disent les médias britanniques, avec 15 contrats signés. Maria Miller, la présidente de la commission parlementaire sur l'égalité, estime que ces chiffres exorbitants utilisés pour acheter le silence violence, cautionne aussi des attitudes qu'il faudrait dénoncer. Une culture du harcèlement, du sexisme et de la misogynie acceptée, disent les lanceurs d'alerte, car ces 53 contrats ont été signés pour protéger la réputation d'employés de la Chambre des communes, mais aussi d'élus. Les motifs qui ont conduit à ces accords financiers restent toujours trop secrets, sauf quand, exceptionnellement, une victime accepte de parler. Angus Sinclair, l'ancien secrétaire privé du président de la Chambre des communes, a été mis à la retraite d'office et a reçu plus de 97 000 euros en 2010 pour ne pas dénoncer John Bercow, député de Buckingham et speaker depuis 2009. Celui-ci est désormais accusé par plusieurs autres employés d'harcèlement et d'accès de rage. Il nie tout et résiste aux appels à la démission. Il faut changer la culture au sein de Westminster, c'est ce qu'a dit Andrea Leadsom, la ministre en charge du Parlement. Mais ça n'est pas gagné, car elle-même aurait été traitée de « femme stupide » par le président de la Chambre des communes lors d'une séance.
Voilà qui, aux côtés d'Erasmus et de la baisse du coût des communications téléphoniques en Europe, fait partie des belles réalisations de l'UE. Le règlement REACH fête ses 10 ans, un règlement qui impose l'étude et la traçabilité de tous les composants chimiques dangereux pour l'homme et l'environnement. En Belgique, Alice de Baptiste de la RTBF s'est rendue dans une entreprise belge qui fabrique des solvants pour étudier son impact.
À l'entrée du site de Lambiote, un panneau met en garde les visiteurs. Attention, matière inflammable, défense de fumée. Ici, on fabrique 8 solvants différents. Certains sont également utilisés dans les domaines de la cosmétique ou de l'électronique. Mais avant d'être présents dans tous les aspects de notre quotidien, ces produits ont été enregistrés auprès de l'Agence européenne des produits chimiques, l'ECHA. L'entreprise a dû identifier les risques liés à ces substances et démontrer comment elles peuvent être utilisées en toute sécurité. Marc Fontaine, responsable du programme REACH au sein de l'entreprise, nous accueille.
Avant REACH, on avait une fiche de sécurité qui se limitait à 8-9 pages et qui donnait des détails de base sur la substance dont on parle. Mais maintenant, avec REACH, on est obligé de mettre les scénarios d'exposition donc en annexe, ce qui veut dire que là, on doit répertorier et on doit surtout dire quels sont les usages, c'est une obligation de REACH.
Et là, on arrive à combien de pages?
Et là, on arrive en 400, 500, 600 pages en fonction des substances.
Ces fiches de sécurité sont accompagnées d'études portant sur les risques d'irritation oculaire, de la peau, de toxicité aiguë ou de risque de cancer. Des démarches contraignantes qui ont un coût pour les entreprises. Pour cette PME, il se compte en millions d'euros.
C'est énorme. Depuis 2010, plusieurs millions d'euros ont été investis pour ce programme REACH. Pourquoi ? Parce qu'on a dû engager des personnes, on a dû déplacer des personnes. On a dû travailler avec un consultant également. On a dû faire des études complémentaires pour boucler nos dossiers parce que nous n'avions pas toujours toutes les données voulues pour ça. Donc, ça prend énormément de temps.
De grands investissements qui rapportent aussi. Le règlement REACH favorise la compétitivité de l'industrie chimique européenne.
Il est clair que ce programme a permis de définir réellement qui était apte à mettre un produit correct sur le marché d'abord. Donc, ce qui veut dire qu'au départ, nous avions énormément d'autres sociétés, externes à l'Europe ou internes à l'Europe, mais qui n'avaient pas nécessairement non plus les capacités de mettre un produit correct sur le marché ou qui n'ont pas le volume à mettre sur le marché. Donc, de ce fait, REACH a limité déjà un certain nombre de concurrents à venir sur le marché européen.
REACH a donc permis de protéger le marché européen et ses entreprises, mais aussi ses citoyens. En 10 ans, l'ECHA a constitué la plus grande base de données sur les produits chimiques au monde. Elle a permis la restriction d'utilisation de 18 substances et le remplacement de 180 produits par des substances plus sûres pour la santé humaine et l'environnement. Des actions qui font aujourd'hui de l'Europe le leader mondial de la sécurité chimique.
Elle L'Espagne, nouveau laboratoire politique européen après le parti populiste de gauche Podemos qui avait déjà fait beaucoup bouger les lignes. Le mouvement indépendantiste catalan marque aussi une forme de défiance envers la classe politique. Depuis la confrontation entre le gouvernement de Madrid et la Generalitat de Barcelone et l'arrestation de nombreux dirigeants, le processus d'indépendance est au point mort, même si le pouvoir régional reste bien aux mains des indépendantistes. L'historien Christophe Barret vient de publier La guerre de Catalogne aux éditions du Cerf. Il est interviewé par Catherine Roland.
C'est pas un mouvement régionaliste comme les autres, c'est un mouvement indépendantiste qui puise toute son énergie dans le moment populiste que nous traversons, dans la déconnexion qu'il y a eu entre des classes moyennes déclassées, on va dire, à partir de la crise de 2007 et des élites politiques traditionnelles. C'est un phénomène qui traverse toute l'Europe, hein, il y a des recompositions politiques dans tous les pays, dans le nôtre, en Italie. L'Espagne, c'est un cas particulier parce qu'il faut savoir que l'offre de l'indépendance, elle est devenue la seule qui valait.
Il y a eu la grosse crise économique qui est passée par là. Est-ce qu'elle n'a pas eu des répercussions sur les velléités indépendantistes en Catalogne?
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un reproche que fait par exemple Podemos, qui eux ont un temps, avec leurs premiers succès électoraux, réussi en Espagne à réconcilier la question sociale et la question de l'indépendance en disant ben, on va réclamer plus de démocratie, on va réclamer mais plus de droits sociaux, le respect de la souveraineté populaire. Donc on réconciliait dans cette volonté de remettre devant les électeurs un certain nombre de questions, dont la question de l'indépendance. C'est un référendum qui est demandé par Podemos, appuyé par une grande partie de la société catalane, mais ça n'a pas empêché Podemos de se retrouver complètement isolé, parce que il y a un moment où il a fallu choisir son camp, et la première chose qu'on fait quand on déclare une guerre, c'est de brûler les ponts. Donc tous ceux qui voulaient essayer de raccommoder les coutures se sont retrouvés isolés.
Oui, en fait, ce que disent les indépendantistes, c'est que finalement, la Catalogne paie en quelque sorte pour les autres régions.
Oui, voilà, alors España no soroba, l'Espagne nous vole bien sûr. Et il faut se rappeler que la Catalogne, effectivement, c'est un nord du sud. C'est la région la plus riche d'Espagne, c'est par là qu'entre une grande partie du PIB. C'est une partie riche qui va reprocher au reste du pays de ne pas avoir assez d'attention. C'est une accusation qui est assez injuste. Ce qu'il est important de remarquer, c'est que l'État catalan n'a pas pu se faire au mois d'octobre, au moment de la proclamation de l'indépendance, parce que ce proto-État n'avait pas les outils nécessaires pour poser des actes vraiment de souveraineté, comme par exemple être capable de lever soi-même ses impôts ou de frapper sa monnaie.
Oui, c'est pour ça qu'on n'assiste pas effectivement à un processus d'indépendance plus actif actuellement.
Non. On est retombé avec des divisions au sein du mouvement indépendant, par opposition au mouvement indépendantiste écossais, par exemple, qui est représenté par un parti unique. Là, on sait qu'il y a différentes tendances au sein du mouvement indépendantiste. Et là, il y a un problème de définition de stratégie, je dirais, pour les 10-15 ans à venir, dont conviennent les militants indépendantistes qui vous disent effectivement, ça n'a pas marché. On pensait que le pointage des insuffisances, on va dire, démocratiques de l'Espagne, qui ne veut pas reconnaître le droit d'autodétermination, allait suffire. On pensait que les images de violence, de la répression, de cette consultation non autorisée le 1er octobre allait suffire. Et bien non, en fait, l'Union européenne est aussi jalouse de stabilité, donc elle n'a pas voulu de cette indépendance, et les indépendantistes n'ont pas été dans la mesure de poser des actes, même s'ils continuent un petit peu à mener le jeu, puisque il y a toujours majorité indépendantiste. Le président de la Généralité de Catalogne est un indépendantiste dont l'objectif clairement affiché est la construction d'une république indépendante de l'Espagne.
Alors, ce que vous dites dans votre livre, c'est qu'on peut pas reprocher à Mariano Rajoy d'avoir fait respecter la légalité et l'état de droit. Hein.
Oui, oui.
Dans le même temps...
Il n'a fait que cela.
Il a fait que cela, mais en même temps, 16 élus catalans sont poursuivis. Et nombreux observateurs disent que finalement, le pouvoir des juges est peut-être un peu excessif.
Tout à fait. On a parlé, alors une ONG anglo-saxonne a parlé de légalisme exacerbé. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est un débat en fait entre légalité et légitimité. La légalité, elle découle de la légitimité. Mais quand vous avez un parlement qui pose des actes d'indépendance, qui est dissous, qui est réélu et qui est donc à nouveau dirigé par une majorité indépendantiste, on se dit que c'est lui qui est souverain dans une certaine mesure. Et donc là, il y a une petite ambiguïté qui remonte aux heures de la transition à la démocratie de l'Espagne. Cette généralité de Catalogne, il faut le dire, c'était la seule de l'Espagne autonome, des autonomies, qui existait avant la transition à la démocratie. Dans beaucoup de discours, Carles Puigdemont, il rappelle que c'est l'institution dont il était l'élu, était antérieure à celle de la démocratie espagnole. Et la constitution espagnole, elle est un petit peu ambigu dans la reconnaissance des droits des uns et des autres. Ça peut être une porte de sortie que de réformer cette constitution en définissant clairement quels sont les pouvoirs des uns et des autres.
La guerre de Catalogne de Christophe Barret aux éditions du Cerf. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Groslot. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission et Accent d'Europe, et sur les réseaux sociaux. À demain.